Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est presque 8h30.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et tout de suite, à 8h presque 30, nous accueillons notre invité de la matinale ce matin, Ludovic Lemoynic, conseiller municipal de Saint-Brieuc, délégué au patrimoine, à l'art, à l'histoire et aux langues et cultures de Bretagne. Il est venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, Ludovic Lemoynic, d'être là ce matin. Bonjour.
La bonjour à terre toute.
Eh ben, on va... se retrouver ce matin alors qu'on aurait dû se retrouver lundi dernier, figurez-vous. Mais lundi dernier, c'était la grève sur l'antenne de Bretagne 5 pour protester contre les disparités dans l'attribution des subventions régionales aux radios associatives. Ça va d'ailleurs nous amener tout naturellement à parler de langue de Bretagne tout à l'heure. Vous avez parlé en gallo, Chevenez de vous accueillir. On va parler de ces langues de Bretagne, on va parler aussi de l'implication de Saint-Brieuc dans ces langues de Bretagne, parce que lorsqu'on arrive à Saint-Brieuc aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas un panneau Saint-Brieuc, mais il y en a trois.
Tout à fait. Ah, je rigole parce que ma femme m'avait dit « Arrête de dire tout à fait à la radio, tu le dis au moins 20 000 fois à chaque fois.
» Allez, on a tous nos petits tics.
C'est ça.
Alors donc, ces trois panneaux à l'entrée de Saint-Brieuc, c'est la mise en valeur des trois langues, le français bien entendu, mais le gallo et le breton. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix d'installer ces panneaux ?
La reconnaissance de nos langues de Bretagne, pas en sous-titré, pas entre guillemets, pas entre parenthèses, pas en italique, pas en plus petit, mais au même niveau que le français, hein, qui est arrivé sur notre territoire quand même bien après le breton, bien après le gallo. Donc c'est la reconnaissance de nos langues, tout simplement.
Et Saint-Brieuc a été volontariste. Hein. Toutes les communes ou les villes de Bretagne n'ont pas eu, cette impulsion, cette envie de mettre au moins en bilingue parfois ou en trilingue leurs panneaux.
On a un rôle essentiel à Saint-Brieuc à jouer, c'est qu'on est une ville frontière en fait. Quand des communes doivent faire le choix entre guillemets du breton, du gallo, se poser la question, nous la question ne se l'est jamais posée, c'était une évidence. On compte sur le territoire un peu plus de 6 000 bretonnants, un peu plus de 13 000 galaisans. On est vraiment au croisement des langues de Bretagne. Donc pour nous, c'était une évidence de mettre en avant le gallo, le breton, et à part égale.
Alors il y a aussi à Saint-Brieuc une association, Télène, Thiarvro, qui œuvre beaucoup pour les langues bretonnes, le gallo donc. Alors ici, on est en terre galaise, mais il n'y a pas de concurrence entre les langues finalement. Et il y a une charte qui a été signée entre Saint-Brieuc et cette association pour promouvoir justement la langue bretonne et la langue galaise.
Exactement, et j'ai même ramené...
Ah oui, voilà.
C'est la charte officielle de la ville de Saint-Brieuc pour la langue galaise.
Voilà, on pourra la voir sur la vidéo hein, qui va être mise en ligne sur la chaîne YouTube de Bretagne 5. Alors cette charte, pourquoi la ville voulait adhérer absolument et voulait signer cette charte ?
Bah, encore une fois, c'est une question de reconnaissance et d'équité. La précédente municipalité avait signé la charte du breton donc au niveau 1. Il manquait la charte du gallo, donc par souci de reconnaissance et d'équité, nous devions de signer la charte du gallo aussi à la ville de Saint-Brieuc.
Voilà, donc on parle gallo, on parle breton à Saint-Brieuc et dans les rues de Saint-Brieuc. On a l'impression, depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité, là on ne parle pas de politique, mais en tout cas de politique culturelle, qu'il y a un souci de mettre en avant la culture à Saint-Brieuc, de mettre en avant les langues, de mettre en avant aussi tout ce qu'on a un petit peu oublié du patrimoine. On en avait un petit peu parlé ici lorsque vous étiez venu précédemment, Ludovic Lemoynic. Est-ce qu'on va continuer dans cette voie-là ? Est-ce qu'on va, j'allais presque dire, passer la démultiplier.
Ah ben, on a d'ores et déjà passé la démultiplier. Hein. J'aime pas faire de comparaison, c'est pas l'objet, mais si on devait comparer ce qui s'est fait cette simple année de premier mandat avec les années précédentes, les précédents mandats, clairement on a passé la démultiplier. La signature de la charte du breton s'est faite sur les 6 derniers mois du précédent mandat. Là, les 6 premiers mois de ce mandat-là, nous avons d'ores et déjà signé la charte du gallo. Nous allons signer dès l'année prochaine le niveau 2 de la charte du breton et le niveau 2 de la charte du gallo. Donc oui, la démultiplier, elle est là.
On découvre beaucoup de choses à Saint-Brieuc. Alors, dans le patrimoine, alors, je sais que vous êtes, vous crapahutez beaucoup, hein, si vous me permettez ce terme, Ludovic Lemoynic. Vous avez beaucoup travaillé, œuvré autour de la tour de Cesson, cette fameuse tour de Cesson qui domine la baie de Saint-Brieuc, en tout cas, qui domine le port du Légué, le port de Saint-Brieuc. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette friche? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une friche. Alors, allez, je vous pose d'emblée la question.
Que vous me posez à chaque fois, en fait. Hein.
C'est oui, la troisième fois que je viens ici.
La tour
savoir.
De Cesson revient toujours dans les... Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour la première fois depuis, je ne saurais dire, 100 ans, 150 ans peut-être, pour la première fois en tout cas depuis de très nombreuses années, la tour de Cesson a ouvert au public lors des Journées européennes du patrimoine, donc les 20 et 21 septembre de cette année, ou 19 et 20 septembre, je ne sais plus. 2000 personnes sont venues sur le site pour découvrir la tour de Cesson. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu la découvrir tous, puisque le nombre de places était limité pour des questions de sécurité. Nous avions 350 places de disponibles. On a fait quand même rentrer 400 personnes, plus donc 1500 personnes, 1600 personnes qui sont venues, qui ont pu découvrir les animations sur place, mais qui n'ont pas pu accéder aux visites guidées malheureusement. Nous avons tout de suite décidé, donc le jour même, nous avons décidé de pallier à cette problématique en organisant un autre week-end qui aura lieu donc... Je ne peux pas encore vous communiquer la date, ça va arriver très très vite. Dès la semaine prochaine, les dates seront officielles. Fin novembre, nous ouvrirons de nouveau le domaine au public. Et ce coup-ci, ce ne seront pas 350 places de visite guidée, ce seront 1400 places de visite guidée qui seront proposées aux habitants.
Donc, je vous posais la question de cette tour de Cesson, parce qu'elle intrigue, ça fait partie du paysage depuis toujours, finalement. Et cette mise en valeur, parce que jusque-là, on ne pouvait pas y accéder, c'était un domaine privé, maintenant, c'est un domaine public, finalement.
Tout à fait. C'est un domaine public. Maintenant, je comprends, je conçois les impatiences des habitants. Il faut aussi se dire que nous, en tant qu'élus, on a les mêmes impatiences. On aimerait bien que les choses aillent plus vite, qu'on puisse proposer plus de choses très rapidement. Maintenant, c'est un domaine qu'il faut prendre avec énormément de précautions. On a sur ce site, outre l'aspect naturel, boisé, végétal, animal, etc., que je ne maîtrise pas, ce n'est ni mes compétences, ni mon domaine en tant qu'élu, mais nous avons sur le site quelque chose comme 2000 ans d'histoire, et 2000 ans d'histoire que nous ne connaissons pas pour la plupart. On a ce qui est visible, la tour effectivement que tout le monde connaît, qui est la tour de Jean IV, élevée au XIVe siècle. On a les blocos allemands, on a le manoir de Glébisoin, voilà, il y a différents bâtiments qui sont visibles. Mais il faut aussi appréhender que sur ce site, on a 2000 ans d'histoire qui sont invisibles, qui restent à découvrir, à appréhender. L'aménagement du site... qui ne sera jamais grandiose, on ne construira pas de bâtiment sur ce site, on ne l'urbanisera jamais, ça restera un site naturel et patrimonial, mais cet aménagement ne se fera pas sans mieux le connaître.
Mmh. On peut imaginer des fouilles archéologiques, des recherches.
C'est le sens dans lequel on se dirige, puisque d'ores et déjà, nous avons eu plusieurs visites préliminaires sur le site, avec notamment l'INRAP et la DRAC, qui ont pu émettre des avis. Alors, ce sont des premiers avis, à chaud, on va dire. Hein. D'autres rendez-vous vont être posés dans les mois, les années à venir. Mais clairement, il nous a été indiqué, alors, deux choses, que le site était exceptionnel, à tout point de vue. Tout était à découvrir, et c'était voilà, une mine d'informations exceptionnelle pour l'histoire de la Bretagne, en général. Hein, parce qu'on a plus qu'un site historique briochin, on a un site historique majeur de la Bretagne, ici. Et par contre, en termes de fouilles, en fait, il ne nous est pas recommandé clairement de faire des fouilles comme on a pu le voir au château du Guildeau, c'est-à-dire des fouilles qui vont clairement durer 20 ou 30 ans et qui pénaliseraient le site. Là, on se dirigerait plutôt vers déjà un diagnostic du site, de l'existant, donc c'est-à-dire un diagnostic de la tour, un diagnostic de archéologie, enfin, de ce qui se trouve en fait sous la terre, donc avec de l'imagerie moderne comme le LIDAR. Mais pas de fouille complète du site. On partirait plutôt sur des petites fouilles ponctuelles, ciblées, sur des zones précises où on sait qu'il y a quelque chose.
Voilà, pour essayer de découvrir encore un petit peu plus autour de l'histoire de cette tour de Cesson. Voilà, vous avez presque satisfait ma curiosité, Ludovic Lemoynic.
Alors, je voudrais tout de même ajouter quelque chose qui est très important, parce qu'on l'a vu aux Journées du patrimoine, et je l'ai vu encore en réunion, en comité de quartier. Je tiens à redire à votre antenne que ce projet ne se construira pas dans les bureaux de l'hôtel de ville. Ça ne se fera pas entre 4 élus et 3 techniciens. C'est hors de question, ce n'est pas notre vision des choses au conseil municipal de Saint-Brieuc. Ce projet énorme, long, se fera dans le temps avec les habitants de la ville, du quartier de Cesson, avec les associations, toutes les associations. Voilà. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas un projet municipal, c'est le projet de toute une ville.
Alors on a le sentiment justement en matière de patrimoine, de découverte ou de redécouverte de cette ville de Saint-Brieuc qu'on a souvent taxé d'une ville un petit peu de passage industriel, voilà. On a l'impression aujourd'hui que Saint-Brieuc se redécouvre, et vous m'avez tendu la perche, Ludovic Lemoynic, se redécouvre avec ses habitants, avec ses quartiers, avec son histoire. On peut parler du quartier de Robien aussi, où on reconstruit l'histoire du quartier, où on redécouvre. Est-ce que c'est important pour une ville comme Saint-Brieuc, qui a été souvent la cible de critiques et autres, de retrouver son histoire, de retrouver son patrimoine, de redorer son blason finalement?
C'est très important, d'autant plus que ce sont, faut le dire, hein, les choses telles qu'elles sont, ce sont certains de ces habitants qui ont dénigré cette ville pendant des années et des années, qui ont contribué finalement à une vision de Saint-Brieuc sombre, insécuritaire, ville, enfin voilà. Mais aujourd'hui, ce sont aussi ces, peut-être pas les mêmes, mais ce sont en tout cas les habitants de Saint-Brieuc qui contribuent aujourd'hui par leur travail depuis des années, hein, qui a peut-être été moins visible, mais qui a toujours été présent. Ce sont les associations et les habitants de la ville qui contribuent au renouveau de cette ville.
Alors, il y a une demande de renouveau à Saint-Brieuc. Alors, quand on regarde les cartes postales, on a vu que Saint-Brieuc a eu plusieurs époques. L'époque du ferroviaire, on va y revenir, puisque de gros travaux sont prévus sur le boulevard Sévigné, hein, qui descend justement au port du Légué et qui conduit vers la voie express aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de conserver le patrimoine et de moderniser en même temps? Est-ce qu'on peut arriver à faire les deux sans trop casser?
Il faut arriver à faire les deux. Sacraliser le patrimoine pour le sacraliser, ça ne mène à rien. C'est-à-dire qu'un monument historique qui est certes conservé, mais qui est cependant vide de sens, vide de destination, ça ne mènera à rien. Il finira par redevenir une ruine et on finira par l'oublier. Il faut que le patrimoine vive avec son temps. Il faut conserver les monuments, peut-être pas tous. Certains monuments, voilà, disparaissent. C'est un petit peu le cycle de la vie, j'ai envie de dire. Je pense notamment au passage de la Poste, qu'on aurait tous aimé garder, mais voilà, les choses ont fait que ce passage a fini par disparaître, être démoli. C'est l'histoire d'une ville. Il y a 200 ans de ça, la ville comptait encore 1000 maisons à colombage. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 50. C'est dommageable, mais c'est le sens de la vie. Ça, les choses disparaissent, d'autres arrivent.
Il faut faire une forme d'inventaire pour transmettre, pour la suite, pour les générations futures.
Il faut faire un inventaire, il faut, pour préserver un patrimoine, pour l'aimer, il faut déjà le connaître. Et ça, c'est un reproche que je peux faire aux anciennes municipalités, clairement, c'est que jusqu'ici, le patrimoine, ils ne s'y sont pas intéressés. Vraiment, on en est là aujourd'hui, si personne ne connaît le patrimoine de la ville, si certains briochants n'arrivent même à dire que notre ville n'a pas d'histoire et pas de monument, c'est que quelqu'un, quelque part, n'a pas fait son boulot là-dessus. Quand j'ai pris ce mandat à la ville de Saint-Brieuc, je le savais déjà d'avant, hein, mais j'ai pris une délégation qui ne dispose d'aucun service municipal. C'est la seule ville en France de cette taille-là qui n'a pas de service patrimoine. C'est incroyable. Aucun agent de la ville n'est dédié au patrimoine. Alors, il y a des agents qui s'en occupent. Attention, je dis pas que personne ne le fait. Aux archives municipales, ils font ça très très bien. À la bibliothèque municipale, au musée, à l'urbanisme aussi, il y a des agents qui sont très impliqués, c'est ça, dans la sauvegarde du patrimoine de notre ville. Mais simplement, il n'y avait pas de coordination, il n'y avait pas de personne chargée du patrimoine qui coordonne toutes ces actions-là.
Alors vous avez cette passion aussi chevillée au corps, hein, Ludovic Lemoynic. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là en urgence? Alors on va oublier la tour de Cesson, on en a parlé, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en urgence aujourd'hui pour le patrimoine de Saint-Brieuc? Alors patrimoine, les monuments bien entendu, mais aussi patrimoine immatériel. On pense aux photos, on pense aux livres. Alors patrimoine immatériel, pas tant que ça, parce que les livres, il y en a. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour ce patrimoine, pour le sauver, pour le transmettre? Est-ce qu'il y a des urgences aujourd'hui?
L'urgence, c'est de le faire connaître. Il faut faire connaître notre patrimoine. Je suis très régulièrement dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Je fréquente les établissements du centre-ville assez assidûment. Donc, je suis confronté à la population tous les jours, et à la population et aux visiteurs de la ville. Et plusieurs week-ends, ça m'arrive souvent de croiser des visiteurs avec leurs petits plans qui sont là, qui tournent en rond, qui cherchent, qui ne comprennent pas, qui ne trouvent pas. Et bon, naturellement, je vais vers eux, je vais les voir, je me présente. Et les gens me disent, mais on ne sait pas quoi visiter. Alors on est venu voir la cathédrale parce que c'est une évidence, mais on ne sait pas ce qu'il y a à Saint-Brieuc. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'en passant par l'office du tourisme ou par l'hôtel de ville, les visiteurs comme les briochins ne savent pas quoi voir à Saint-Brieuc. Ils ne savent pas qu'il y a l'hôtel du Saint-Esprit du 15e siècle, qui est quand même un bâtiment magnifique, un manoir urbain en plein cœur de ville. Ils ne savent pas qu'il y a la fontaine Saint-Brieuc. Ils ne savent pas qu'il y a la tour de Cesson. Ils ne savent pas qu'il y a des ponts, des ouvrages d'art. Je ne comprends pas. Et ça, ça va être vraiment la première étape cruciale. Ça va être d'inventorier, de répertorier tout cela et de le faire connaître.
De communiquer finalement sur ce patrimoine briochin.
Exactement.
Alors, on parle aussi de politique à Saint-Brieuc. Vous n'allez pas y échapper, Ludovic Lemoynic, qui est aussi un petit peu en marge du patrimoine. On a l'impression de Saint-Brieuc qui revit un petit peu depuis l'arrivée de l'autre, de la nouvelle municipalité. Ce n'est pas à dire que l'autre n'avait rien fait, bien entendu, mais voilà, il y a un nouvel esprit qui souffle à Saint-Brieuc. Est-ce que là aussi, il va falloir, en termes de politique d'aménagement de la ville, en termes de mieux vivre aussi, parce que c'est une grande demande aujourd'hui de mieux vivre. Est-ce que là aussi, vous avez des pistes? Est-ce que vous y travaillez chaque jour?
Je pense que dans notre équipe municipale, il y a un axe essentiel qui va faire la différence avec ce qui s'est fait précédemment. Moi, je l'ai vécu en tant que briochin. Je suis politique, mais assez récemment, finalement. C'est mon tout premier mandat. Je n'ai jamais été élu. Je suis certes militant de l'UDB, mais ça se fait depuis 2 ans. Donc, quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, j'étais, voilà... pas du tout politisé. Et j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire d'arriver dans cette ville et d'être confronté en fait à des projets, des aménagements, sans avoir été concerté, sans avoir pu donner à un moment ou à un autre mon avis. Et ça, je pense que c'est vraiment une marque essentielle de notre équipe, c'est de construire des projets, mais de les construire avec les habitants.
Voilà, ça ne se passe pas, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un bureau. Ça dépasse l'hôtel de ville. Saint-Brieuc est aussi une terre politique. Saint-Brieuc a toujours été une terre politique, une terre d'engagement. On voit aujourd'hui que des élections vont arriver. Ça vous aura pas échappé.
Malheureusement.
Le manique. Élections présidentielles, élections législatives. On voit aussi beaucoup de tensions. Alors, Saint-Brieuc semble un petit peu échapper à ces tensions. On parle pas trop d'insécurité, on parle pas trop. Et pourtant, il y en a, c'est comme partout. Est-ce que pour vous, le climat actuel vous inquiète, vous intrigue, vous... Alors à Saint-Brieuc, un petit peu plus largement.
Pour être tout à fait honnête, j'essaie de ne pas m'intéresser à tout ça parce que, clairement, enfin, dès qu'on regarde un petit peu ce qui se passe en France, dans le monde, en politique, dès qu'on commence à regarder un petit peu les futures élections présidentielles, il y a de quoi devenir marteau, honnêtement. Il y a de quoi devenir marteau. Donc j'essaie de me préserver de tout ça et de ne pas trop m'y intéresser. C'est peut-être pas bien de dire ça pour un élu municipal, mais je me préserve. J'ai déjà du stress parfois, j'ai déjà des coups durs. Enfin, j'ai parfois des coups durs en tant qu'élu. Hein. On est confronté comme des fois à des mécontentements, à des choses parfois vraies, parfois fausses, mais voilà, qu'on n'aime pas entendre. Donc c'est déjà très dur finalement d'être un élu de terrain. Alors si en plus on commence à regarder ce qui se passe au niveau régional, au niveau national... C'est décourageant. Donc c'est peut-être pas un tableau finalement très positif que je brosse, mais j'ai presque envie de dire à Saint-Brieuc, pour vivre heureux, vivons cachés à Saint-Brieuc, on est bien.
Non, finalement, faut pas trop parler de Saint-Brieuc. Hein. On n'est pas bien ce matin, on en parle sur les ondes. Non, essentiellement, on sait que la vie nationale, la vie politique nationale, ne serait-ce qu'au niveau culturel, peut aussi avoir des répercussions à l'échelle locale. Et c'était ça un petit peu le sens de ma question.
Alors, moi, c'est... En tant que militant de l'Union démocratique bretonne, donc un parti fédéraliste et autonomiste, c'est un petit peu ce qui me gêne justement. C'est normal que dans notre pays, ce qui se passe à l'échelle nationale touche les territoires. Bien sûr, c'est comme ça dans tous les pays, aucun pays n'y échappe. Cependant, il faut reconnaître que dans le nôtre, on est un petit peu trop dépendant de ce qui se passe à Paris. Ce qui se passe à Paris nous touche un petit peu plus que ça ne devrait, je trouve quand même.
On n'a pas assez de décentralisation, finalement, ce fameux mot de la décentralisation.
La décentralisation en France, mais c'est une vaste blague. Il n'y a jamais eu de décentralisation en France, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans notre pays, on n'a pas cette culture-là. On n'y arrive pas, on en est incapable. Je pense que tout à chacun le souhaite. Les habitants parlent aujourd'hui beaucoup de démocratie locale, participative. C'est ça la décentralisation, c'est pouvoir décider ensemble localement. Et mais ça n'existe pas.
Et ça me ramène à Saint-Brieuc, où on voit quand même une vie de quartier. Alors quand je dis de quartier, je les mets au pluriel, très importante. On s'aperçoit que les habitants ont des demandes, ont des requêtes vis-à-vis de la municipalité, mais aussi font beaucoup de choses. On le voit dans tous les quartiers de Saint-Brieuc. Est-ce que c'est là aussi une posture de la municipalité de se dire, voilà, on va essayer de laisser aussi les quartiers vivre, proposer, aller presque imposer leur tempo, j'allais dire.
C'est dans l'ADN de notre équipe, hein, c'est de dire, vous, habitants, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous proposez? Et nous, on va vous accompagner pour le faire. On ne va pas le faire à votre place. Ce n'est pas ça le but d'une municipalité. Le but d'une municipalité, c'est d'accompagner. Donc moi, ce que je dis en termes de patrimoine et de culture bretonne, puisque ce sont mes délégations, ce que je dis aux associations systématiquement, c'est qu'est-ce que vous voulez amener pour la ville? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos... Et je vous dirais, où est-ce qu'on peut vous accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à réaliser ça?
Alors on parle de mieux vivre, du bien-être à Saint-Brieuc, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui à Saint-Brieuc, alors on râle beaucoup sur la circulation, mais là je crois que c'est pas seulement typique de Saint-Brieuc, est-ce que là aussi ce bien-vivre il faut le réinstaller à Saint-Brieuc? On avait l'impression un peu d'une ville un peu froide où chacun était un peu dans ses occupations.
Si je peux me permettre un coup de gueule, parce que vous parlez de circulation, de stationnement, enfin de...
Allez, voilà. La parole est libre.
je vais y aller parce que je suis piéton. Je le dis, je n'ai pas le permis, je n'ai jamais voulu le permis, ça ne m'intéresse pas. Conduire ne m'intéresse pas. C'est dans ma façon d'être, c'est comme ça. J'ai rien qui m'empêche de passer le permis. Hein. Si je le voulais demain, je le passerais, mais je ne le veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis piéton. Or, j'entends énormément les automobilistes se plaindre, systématiquement se plaindre. Je vois aujourd'hui les gens qui disent « Ah, Saint-Brieuc, c'est une catastrophe pour circuler, pour se stationner ». Sauf que quand on sort un petit peu de notre ville, quand on regarde la presse régionale, nationale par exemple, on constate que là, en ce moment d'ailleurs, toutes les presses locales, toutes les presses régionales font état de toutes leurs villes, toutes les villes de France qui se plaignent du stationnement, de la circulation. Donc j'ai plutôt l'impression qu'en fait, plutôt qu'un vrai problème, il y a peut-être un problème de mentalité automobiliste. Je précise, parce que je sais que je peux me faire tacler là-dessus. Moi, en tant que piéton, donc, je vais travailler tous les jours à pied. Je fais à peu près une dizaine de kilomètres à pied pour aller travailler. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, bien sûr, hein, je dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, loin de là, c'est moi je le fais parce que je peux, point. Simplement, en tant que piéton, donc je traverse la ville de Saint-Brieuc, je suis confronté dans chaque rue de la ville à des stationnements sur les trottoirs qui forcent le piéton à aller sur la route. Hein, tous les matins, je le vois, tous les soirs, je le vois, c'est systématique, il n'y a pas une journée sans que ça m'arrive. Bon, moi, c'est une chose, mais quand je vois des lycéens, des étudiants, des collégiens qui passent par dizaines dans certains axes importants, qui sont aussi obligés d'aller sur la route, donc ce mauvais comportement de stationnement, additionné en plus à une vitesse excessive, partout, dans tous les quartiers de la ville, on nous l'a redit encore en comité de quartier, on a vu deux comités de quartier vendredi soir, il n'y en a pas un qui ne nous a pas dit oh, « Tout va bien, on n'a pas de problème de circulation ». Si, si, tous nous ont dit, dans toutes les rues, les gens roulent trop vite. Mmh. Je vais vous donner un exemple, parler un petit peu de vie privée, mais de mon épouse. Mon épouse qui ne comprend pas à chaque fois me dit « mais je comprends pas, les gens me collent au cul, les gens me doublent, les gens sont énervés en voiture, je ne comprends pas ». C'est tout simplement parce qu'elle respecte la limitation de vitesse. On a fait le constat, on a regardé, en fait elle respecte la limitation de vitesse. Et du coup, les gens, comme ils roulent plus vite, eh ben, ils veulent la doubler. On est dans une espèce d'air de la vitesse, de tout de suite. On ne prend plus notre temps.
Justement, alors, il y a ce projet 30 à l'heure à Saint-Brieuc, hein, qui commence à faire un petit peu de vague. On dit, oh là là, oui, mais on ne va pas pouvoir circuler. Et pourtant, on a l'impression aussi que les gens ont besoin de prendre du temps. Et vous mettez le doigt sur l'essentiel de Vic Lemoynic, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui va très vite. On n'a pas le temps d'écouter, on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps d'expliquer. On fait du buzz, beaucoup de buzz. Est-ce que là aujourd'hui, peut-être des expériences comme des villes comme Saint-Brieuc, d'aller moins vite, d'essayer d'apaiser. Est-ce que l'apaisement, c'est finalement l'avenir?
Ah mais moi j'en suis persuadé. Il va falloir de toute façon, à un moment ou à un autre, qu'on remette nos modes de consommation, nos modes de vie. Il va falloir qu'on le remette en cause. C'est inévitable. Il faut arrêter de se mettre des œillères. Parlons du prix de l'essence, par exemple. Hein. Je comprends la colère. Hein. Moi-même, des fois, je râle contre le prix de certaines choses. Mais il va falloir à un moment se rendre compte que l'essence un jour va disparaître. Ce n'est pas éternel, les réserves ne sont pas illimitées. Donc le prix ne fera de toute façon qu'augmenter. On arrivera un jour au stade où il n'y en aura plus. Donc il faut absolument voir les choses telles qu'elles sont et du coup changer notre façon de faire, notre façon de voir. Moi, la ville à 30 km/h, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas une journée sans qu'un gamin, un adulte, soit menacé de mort, on va dire les choses telles qu'elles sont, parce que les gens roulent trop vite. C'est un fait. Déjà, à 50 km/h, ils n'arrivent pas à rouler, ils n'arrivent pas à respecter la limitation de vitesse. Eh bien, baissons-la encore. Apaisons la ville.
Est-ce qu'il faut enlever la voiture de la ville? C'est la grande question.
Non, il ne faut pas enlever la voiture de la ville. Non, hors de question. Saint-Brieuc, c'est quand même une ville assez particulière et atypique, dans le sens où c'est la principale agglomération du département et la seule agglomération du département, enfin la seule grosse agglomération. Donc forcément, les gens qui viennent de l'extérieur ont besoin de leur voiture pour venir à Saint-Brieuc. Personne d'ailleurs, ni moi, ni aucun collègue de l'équipe municipale, ni personne ne peut dire « personne qui habite à Quessois va venir à pied ou à vélo à Saint-Brieuc, il en est hors de question ». Mais par contre, des gens qui viennent travailler à Saint-Brieuc, du même village, ne peuvent-ils pas prendre une voiture au lieu de 4 voitures, puisqu'aujourd'hui la plupart des gens sont tout seuls dans leur voiture? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour diminuer un petit peu la voiture? Sur la route à côté de chez moi, j'habite juste à côté du rond-point de Brésilier. Tous les jours, il y a 20 000 véhicules qui s'engouffrent sur cette route. Est-ce que sur ces 20 000 véhicules qui, pour la plupart, n'ont qu'une personne, est-ce que les gens ne peuvent pas covoiturer, se retrouver entre voisins un petit peu, communiquer, et dire « tu vas à Saint-Brieuc tous les jours, allons-y ensemble ». Et déjà, si on arrivait à enlever sur 20 000 voitures, ne serait-ce qu'un quart de ces voitures, je pense que le niveau de circulation serait mieux.
Et c'est aussi du lien social, finalement.
Et c'est aussi du lien social. On a créé en fait une ère du tout de suite, de la vitesse et de l'individualisme. Où il faut que j'arrive très vite là où je dois aller, je suis tout seul, j'emmerde les autres, je suis dans ma bulle, dans ma bagnole, j'emmerde tout le monde. Mais c'est ça. Les gens aujourd'hui, il faut voir comment certains automobilistes sont agressifs, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Il faut vraiment se casser cette bulle, sortir de cette bulle, discuter avec ses amis, ses voisins. Moi, j'ai travaillé en entreprise dans la zone des Châtelets. Je ne comprenais pas. Il y avait 15 voitures sur le parking. On venait tous de Saint-Brieuc. Pourquoi on ne s'est pas à un moment retrouvé tous ensemble, dire pourquoi on ne se met pas à 4 ou 5 par voiture? Et le coût du prix de l'essence, on y gagnerait aussi, parce que peu importe si l'essence augmente, on est 4 dans la voiture, on partage les frais. Là, on se rendrait compte tout de suite que pour aller bosser, l'essence coûte moins cher.
Voilà pour la voiture et les mobilités et votre coup de gueule, allez, on peut le dire comme ça, Ludovic Lemoynic. On va terminer sur le patrimoine, sur les langues. Vous êtes venu aussi avec un livre. Là, j'aurais voulu que vous nous en disiez un mot j'allais dire un petit opuscule. Non, il y a quand même quelques pages. C'est un livre autour du galop. Alors, dites-nous tout, Ludovic Lemoynic.
Alors, c'est un livre qui est tout récent et qui a d'ores et déjà pris une grande importance dans ma vie. C'est « Chemine de galop pour le monde venu », donc méthode d'apprentissage de galop pour les adultes. Ça a été écrit par Fabien Lécuyer, que je remercie infiniment à la fois pour le livre, mais aussi son accompagnement constant depuis que je suis élu à la ville de Saint-Brieuc. C'est en fait la première méthode d'apprentissage de la langue galaise. C'est pas rien quand même ça.
Ça, c'est important. On peut se le procurer, les auditeurs peuvent se le procurer, ce livre,
tout à fait.
Alors, dans les bonnes librairies.
On peut se le procurer à peu près partout, il coûte 30 euros, mais c'est ni plus ni moins qu'un outil qui va permettre de remettre le galop à sa juste place, c'est-à-dire partout.
Voilà, on avait un petit peu oublié le galop, le breton l'avait un peu occulté, on peut le dire sans méchanceté vis-à-vis du breton, bien sûr.
Je l'avais déjà dit à cette antenne-là, je pense, mais moi je le vois d'ailleurs, dans les opérations qu'on mène vis-à-vis du galop, c'est minoritaire, c'est ultra minoritaire, mais néanmoins j'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent me dire « Oh oui, mais le galop, ça vient effacer le galop, on est même venu me dire que c'était une arme des Jacobins pour supprimer le breton en Bretagne et détruire nos cultures ». On va remettre les choses dans le contexte, d'accord ? Le breton est très très ancien. Plus ancien que le français, plus ancien que le galop. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Mais le galop, c'est pas une version du français qui est venue nous parasiter. C'est pas du tout ça. En fait, le galop, il est à la hauteur du français. C'est-à-dire que c'est une langue, déjà, comme le breton. C'est une langue, le galop. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais le galop, donc, c'est une langue quand même qui est millénaire aujourd'hui, maintenant, mine de rien, et qui est issue du latin, en fait, comme le français et comme bien d'autres langues dans notre pays. Donc ce n'est pas moins que le français, ce n'est pas plus que le français, mais ce n'est pas non plus moins que le breton et ce n'est pas plus que le breton. C'est une de nos deux langues de Bretagne. Voilà.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Ludovic Lemoynic, sur le galop. Et ce livre, donc, on mettra les références sur le site de Bretagne 5, c'est promis. Ludovic Lemoynic, conseiller municipal de Saint-Brieuc, délégué au patrimoine, à l'art, à l'histoire, aux langues et cultures de Bretagne. Vous étiez notre invité ce matin, ce lundi matin. Je vous en remercie. Vous êtes venu en direct au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
À la prochaine.
À la prochaine.
Bretagne 5 matin, le 7-9. Stéphane Hamon.